Radio, il est 21h. Parlons vrai.
Bonsoir à tous. La population israélienne appelée au confinement. Les sirènes d'alerte ont retenti ce soir à Tel Aviv et à Jérusalem, alors que l'État hébreu s'attend à une nouvelle nuit sous les tirs de missiles iraniens. De son côté, Téhéran a activé ses systèmes de défense anti-aérienne. Une Française soupçonnée de meurtre arrêtée en Islande. Cette touriste est suspectée d'avoir tué son mari et leur fille. Les deux victimes ont été retrouvées sans vie samedi matin dans une chambre d'un hôtel de luxe de la capitale islandaise Reykjavik. Les corps présentaient des coups de couteau. La Française a été placée en détention provisoire. Le nouveau cheval de bataille de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, dans un entretien accordé au JDD, elle a promis d'interdire l'exposition aux écrans pour les plus petits de la naissance à l'âge de 3 ans. Cela va se concrétiser par la publication dans les prochaines semaines d'un arrêté interdisant les écrans dans les lieux d'accueil des enfants de moins de 3 ans. Ceci n'est pas une chaise. Un couple de touristes a détruit une œuvre appelée la chaise de Van Gogh de l'artiste Nicolas Bola en s'asseyant dessus en Italie. Sans surprise, l'objet a cédé sous le poids du visiteur. Sur les réseaux sociaux, le musée italien situé à Vérone où est exposée l'œuvre a fait part de sa colère en parlant d'un comportement superficiel et irrespectueux. L'œuvre a depuis été restaurée. Enfin, le sport est de 1-0 pour Paris au basket. Le Paris Basket a remporté aujourd'hui le match 1 de la finale de Betclic Elite contre Monaco. Un succès 94-84. TJ Shorts a notamment brillé sur le parquet de l'Adidas Arena avec 30 points pour 6 rebonds et 6 passes. Paris est à 2 victoires du seul titre national encore absent de son palmarès. Le match 2, c'est mardi soir, toujours dans la capitale. Et lui rentre dans l'histoire du judo français. Johan Benjamin Gaba est devenu aujourd'hui champion du monde dans sa catégorie des moins de 73 kilos. C'est la première fois qu'un Français est sacré au niveau mondial dans cette catégorie de poids. Un dimanche au championnat du monde à Budapest en Hongrie, qui a vu aussi Léonie Sizik être parée de bronze chez les moins de 57 kilos. C'est tout pour l'actu. Très bonne soirée à tous.
Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir été le garde du corps de Johnny, vous avez choisi de contribuer à la sauvegarde d'un homme qui aurait eu 82 ans cette semaine, mais qui, au fond de son âme, a toujours eu 20 ans. Bonjour Patrick Roussel.
Bonjour.
Alors, je vous avais reçu il y a 2 ans quand vous aviez écrit un livre sur Johnny déjà. Et là, il aurait eu 82 printemps dans quelques jours. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion de reparler de lui avec ce livre qui s'appelle « Pour ceux qu'il appelait Johnny » chez Marugue Édition. Un livre fait de révélations. Car, précisons-le, vous avez beaucoup travaillé avec Johnny. Combien d'années ?
16 ans en tout.
16 ans.
16 ans en tout, oui.
16 ans, près
12 ans,
de lui.
12 ans au quotidien, plus 4 ans après en tournée.
Alors, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer son parcours, le parcours de Johnny à travers des dates clés, tout en évoquant le livre. Donc, la première que j'ai trouvée, c'est le 15 juin 2013, c'est 70 ans, où à Bercy, il chante entre autres ce succès.
À ton corps, ça fait dur.
Ce deuxième des 3 concerts de Johnny à Bercy, vous l'avez vécu et ça reste dans votre mémoire, Patrick Roussel.
Oui, parce que là, on a lui, avec la production et tout ça, avait décidé de traverser la foule pour qu'on m'entrait.
Oui.
Donc, on a traversé la foule de Bercy.
Oui.
Certes, c'était pas comme le Parc des Princes, où je n'étais pas, mais quand même, ça a été un bon moment et on s'en rappelle, effectivement.
Pourquoi ?
Mais parce que ça pousse fort.
Mais le public était prévenu en plus, il se doutait.
Non. Ah non, non, non.
Mais comme il y a eu le Parc des Princes, ils se sont dit, il va peut-être faire
non,
la même chose.
Non, non, pas du tout. Parce que je pense qu'il pensait qu'à 70 ans, il n'aurait pas le courage de le refaire. Mais si, il l'a fait.
Il l'a fait.
Et au contraire,
Et dans ces cas-là, il faut pousser, comment on fait?
On pousse un peu, oui, effectivement. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que l'artiste ne soit pas trop bousculé et qu'il puisse assurer le spectacle derrière.
Ouais, alors en plus, le spectacle était retransmis sur TF1.
Absolument.
Et non seulement ça, mais ce qui est extraordinaire, il y avait un deuxième spectacle ensuite.
Voilà, et donc ça suffisait pas, un concert comme ça, donc il a enchaîné direct après avec le Théâtre de Paris. Oui. Voilà, le temps, je sais même pas si c'était démaquillé ou pas, j'en sais rien, enfin voilà, le temps de passer un peu dans les loges, redescendre un petit peu, on est parti en voiture, escorte et direction Théâtre de Paris pour un deuxième concert.
Mais c'est fou.
Et à 70 ans.
Oui, mais il était en pleine forme après le premier spectacle, quel souvenir en gardez-vous?
Oui, l'adrénaline, elle redescendait pas là. Ouais. Même en concert normal, il lui fallait 2-3 heures avant que ça redescende vraiment l'adrénaline. Donc là, il n'y avait pas de souci, il était toujours sur le truc.
Mais c'est lui qui avait eu envie de faire ce théâtre de
Paris. Là, l'idée, je ne sais pas comment elle est venue, mais lui, il a été partant et je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir à faire les deux, en fait. Bercy, qui était plus grand, plus gros show, tout ça. Et le deuxième, plus intimiste, plus près du public. Donc, c'était bien, ça. Voilà, c'était vraiment bien.
En plus, le deuxième n'avait rien à voir côté chanson. C'était un concert de rock'n'roll.
C'est ça. Beaucoup, beaucoup plus, voilà. Beaucoup plus sur le rock'n'roll.
Oui. Et là, il arrive, je crois que ça a débuté à 1h15 du matin.
Alors là, je vous dirais, franchement, je me rappelle plus, mais ça faisait une longue journée.
Voilà. En plus, c'était le quartier de son enfance.
Oui, tout à fait.
On n'était pas loin de l'endroit où il a grandi.
Voilà, dans le 9e, c'est ça.
Voilà. Il avait choisi ce lieu parce qu'en fait, je crois que le propriétaire à l'époque, le directeur du Théâtre de Paris associé, avait des liens avec la production, donc c'était le lieu idéal.
Ça, probablement, mais c'est vrai que ça lui rappelait quand même, voilà, ça de nombreuses années en avant.
Et il entre en scène ce soir-là au Théâtre de Paris, Johnny, en disant « Ce soir, on va se faire plaisir, on ne va faire que des trucs que l'on joue pas habituellement. Mm-hmm. » C'est vrai qu'il ne faisait jamais rien comme les autres, il n'y avait pas de routine avec Johnny.
Non, même dans la vie de tous les jours, de toute manière, voilà.
Voilà.
On savait pas ce qui allait se passer, vraiment.
Alors, les rock'n'roll, justement, qu'il chante au Théâtre de Paris, c'est un vieux souvenir, et il y a quatre disques collector, qui sont les 45 tours qu'il a enregistrés en 64, les 45 tours des rock les plus terribles, après il en a fait un 33 tours, ces disques valent une fortune aujourd'hui sur les sites internet, et parmi les chansons de ce 45 tours, il y a celle-ci.
Rien que 8 jours, rien que 8 jours, rien que 8 jours.
Le Johnny des débuts, c'était quand même complètement fou.
Oui, je l'imagine, en fait, quand à cette époque-là, quand il chantait au Paris Sport, où il cassait tout, ça devait être quand même... En fait, je suis tombé à la bonne époque, en fait, c'était beaucoup plus soft.
Oui, ah oui, mais il y a le fameux palais des sports où on a cassé soi-disant les fauteuils alors qu'il n'y avait pas de fauteuil quand il a débuté, mais il avait une énergie incroyable, c'est vrai que c'était étonnant.
Mais toujours, en fait, moi, juste tout le temps que j'ai travaillé pour lui... C'était assez incroyable.
Alors, il y avait aussi cette folie d'aller toujours de plus en plus loin. On a oublié son premier palais des sports de 69, le 26 avril. Il y avait 5 scènes, 4 passerelles, un double écran, 2 ballons sondes, 17 musiciens, 12 cascadeurs, 26 danseurs et un ring de boxe. C'est vrai qu'il voulait, quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Vous l'avez vécu, Patrick Roussel.
Oui. Il fallait toujours faire quelque chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas fait, ou toujours plus grand. Et c'est grâce à ça, tout le monde, je pense, qu'il a fait toute son histoire et tout, qu'il a fait une aussi longue carrière, tout le monde, voilà, en s'innovant en permanence.
Vous avez vécu beaucoup de concerts événements avec Johnny.
Oui.
Et comment ça se passait à chaque fois?
Il avait toujours le trac. Même les derniers concerts que j'ai fait avec lui, il avait toujours quand même le trac avant. Et essentiellement, évidemment, les plus gros. Mais même, voilà, tous les concerts, il y avait un track avant, et c'est ce qui le maintenait, c'est ce qu'ils aimaient, en fait, c'est ce qu'ils aimaient.
Voilà. On dit toujours qu'un artiste qui n'a pas le track n'est pas un artiste.
Hein. Je l'ai entendu aussi, et effectivement, enfin, pour lui, ça se confirme toujours.
Exactement. Alors, il y a eu quand même des moments difficiles. Je crois que vous évoquez dans ce livre un concert au Royal Albert Hall de Londres, quand il est descendu dans la salle, racontez-moi.
Oui, parce qu'alors... Il y avait des concerts sur une tournée où on avait l'habitude, ils descendaient devant la scène pour aller saluer le public. Donc là, on savait, c'était préparé, il n'y avait pas d'histoire. Voilà. Sauf que là, ils décident d'aller dans la foule, dans le public. Tout le public était assis, certes, mais ils décident de quitter la scène parce qu'en fait, il y avait un accès sur le côté directement en tribune. Et il est allé voir le public comme ça chanter. Et moi, j'étais tout à fait au fond, en gradin avec Laetitia. Mon binôme était, lui, arrière scène. On a fait vite pour y aller. Pas qu'on craignait réellement pour sa sécurité que quelqu'un veuille l'agresser. Non, évidemment que non, c'était pas ça, mais plus marcher entre les gens, il peut tomber. Et donc, voilà, il y a eu un petite montée d'adrénaline, là, ce jour-là, effectivement.
Et le public n'est resté sage?
Et ils ont adoré.
Voilà, mais.
Non, ils se sont levés, voilà, mais ils ont adoré, forcément. Et ils savaient pertinemment, faire. À ce genre de choses-là.
Et ce qu'il adorait par-dessus tout, je crois, Johnny, c'est le Stade de France, même si c'était compliqué pour vous, Patrick Roussel.
Et oui, le Stade de France, c'était particulier parce qu'il y avait beaucoup de monde, pas en termes de gestion de public, parce que ça, moi, je m'en occupais pas personnellement, mais c'était plus la pression qu'il y avait, notamment au niveau des invités, en fait.
C'est-à-dire? Voilà.
Mais il y avait des invités qui se prenaient plus pour la star que la star lui-même.
Oui.
Donc voilà, il fallait gérer parce que malgré tout, ce sont des connaissances, des amis, des politiques, enfin ou quoi que ce soit. Et donc, il faut, voilà, il faut aussi faire le dos rond là-dessus, quoi. Voilà.
Les gérer avec politesse et tact.
C'est ça. Voilà. Et en même temps, avec un soupçon de fermeté, quand même.
Et puis, il y avait les fans. Car les fans aussi, il était très proche d'eux. Il y avait une fan, je crois, que vous évoquez dans ce livre, qui s'appelle Christine, qui le suivait absolument partout.
Oui, oui, oui. Sur le film en Ardèche, où, quand il avait tourné L'Homme du Train, on la retrouve à New York en concert, on la retrouve sur 20 ou 30 dates pendant les tournées. Voilà, et c'est pour ça que malheureusement, cette personne est décédée depuis, et c'est pour ça que j'ai tenu à citer, parce que voilà, c'est une bonne personne, elle a été fan du début à la fin, et toujours avec du respect. Donc c'est pour ça que je tenais à parler de cette personne-là.
Et Johnny, lui, comment était-il avec ses fans ?
Il était très bien avec ceux qui respectaient aussi, voilà, qui étaient pas les exubérants en fait, voilà.
Alors il y a eu un moment aussi difficile, c'est le concert au Parc de Sceaux le 15 juin 2000. Sur les photos, vous avez l'air plus épuisé que lui, Patrick Roussel.
Oui, d'autant que là encore c'était mes débuts. Il n'y avait pas aussi longtemps que je travaillais, donc je subissais presque plus la pression que lui, en fait.
Ouais. Et en plus, ce concert avait eu lieu 10 jours après le concert de la Tour Eiffel.
Ouais.
Ça aussi, c'est une folie.
Oui. Ah oui, oui, la Tour Eiffel, ça avait été un grand moment, oui. Ça, là, avec le Hummer, en plus, le gros véhicule, c'était, voilà, il fallait circuler. Il n'y avait rien de simple. Mais ça l'a fait. Et on voit, d'ailleurs, dans le livre, on voit une photo où il se décontracte à sa façon, juste avant le concert, la Tour Eiffel. Voilà, en faisant son fameux déhanché qu'il faisait quand il chantait du rock'n'roll. C'est assez amusant. Nous, on était plus stressés que lui à ce moment-là. Lui, il devait l'être à l'intérieur, mais sur la photo, on paraît, nous, plus stressés que lui, en fait.
Et effectivement, ce jour-là, il a allumé le feu. Ça aussi, effectivement, quand cette chanson démarrait, c'était la folie. Et là, il fallait faire attention à tout, Patrick Roussel.
Oui, là, essentiellement, il fallait surtout faire attention au jeu de flammes qu'il y avait quelquefois. En fonction des tournées, il y avait des jeux de flammes qui, quelquefois, étaient vraiment au bord de la scène. Il fallait faire attention. Pas me brûler les cheveux parce que j'en ai pas, mais voilà, il fallait quand même faire attention.
Et puis il y avait les concerts privés, ça c'était beaucoup plus calme.
Oui.
Il y en a eu un à RTL, je crois, qui a été vraiment pour vous une tranquillité. Un soir, il a chanté dans les sous-sols de RTL.
Oui, tout à fait. Alors ça c'était... je crois que c'était quasiment le seul qu'on a vécu, oui. D'ailleurs, pour une radio. C'était pas une radio, c'était RTL. Mais voilà, il y avait quoi, 50, 60 invités. Voilà, qui avaient dû gagner leur place, donc c'était bizarre en fait, quelque part, de se retrouver dans une aussi petite salle avec lui.
Mais lui, il était heureux dans cette salle.
Oui, bien sûr, parce que là, il faisait des choses qu'il ne faisait pas habituellement, des chansons que c'est pour la promotion d'un album ou d'une tournée, ou voire les deux. Donc c'était, il y avait une proximité avec le public qui était totalement inhabituelle.
Voilà, ce qui est inhabituel aussi, c'est ce qu'il a fait en dehors des concerts, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 17 novembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Roussel pour parler de Johnny Hallyday.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Roussel. Vous avez travaillé pendant des années avec Johnny. Johnny qui aurait eu 82 ans ces jours-ci. Et vous publiez un livre avec des photos et des souvenirs chez Mareuil Éditions pour ceux qu'il appelait Johnny. Alors ce livre, on l'évoque tout au long de l'émission. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et vous évoquez notamment un événement qui s'est passé le 17 novembre 2005, la diffusion sur TF1 de l'épisode numéro 5 de la saison 7 de cette série. Le commissaire Moulin. Un épisode appelé Kidnapping.
Oui, tout à fait.
Voilà, et où il joue un dangereux braqueur qui se transforme en policier.
Oui.
Et ça, vous l'avez vécu, ce tournage?
Oui, du début à la fin, oui. Oui, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Je crois que c'est Yves Régnier au départ qui l'a voulu.
C'est l'idée d'Yves Régnier, effectivement. Ça n'a pas été aussi simple que ça à monter, apparemment, puisqu'il y avait, je ne sais plus quelle personne à TF1 qui n'était pas super emballée par le projet.
Oui. Johnny en comédien, ils n'y croyaient pas.
C'est peut-être ça, je ne sais pas. Hein. Toujours est-il, c'est qu'avec la persévérance, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils ont réussi à le monter, à le faire, à le tourner. Et ça a été une belle expérience, franchement, parce qu'en plus, ils s'entendaient vraiment très très bien. Ils étaient amis, donc non, ça a été un beau tournage.
Oui, ouais. Yves Régnier a réalisé beaucoup d'épisodes du Commissaire Moulin, mais il avait débuté dans deux feuilletons qu'on a un peu oubliés. Enfin, l'un d'entre eux, c'était les Globetrotters, avec Edouard Mix, qui passait à 19h40 tous les soirs sur la chaîne en noir et blanc, et surtout Belphégor, car il a tourné dans Belphégor avec Juliette Gréco, feuilleton de Claude Barma, qui a vidé les salles de cinéma pendant 4 semaines le samedi. Et il était le personnage principal.
J'ignorais.
Et c'est vrai que Johnny et Yves Régnier, il y avait une vraie complicité, vous l'avez senti.
Oui. Au-delà de cet épisode-là, ils se voyaient très régulièrement sur Paris, je sais qu'ils étaient venus à Stade également, je l'ai même vu à Los Angeles, donc... Il se voyait régulièrement. Oui.
Et le Johnny comédien, donc, que vous avez vu tourner, n'avait rien à voir avec le Johnny sur scène.
Non. Il était beaucoup plus à l'écoute de tous les gens qui travaillaient. Il était plus sur la retenue. On aurait dit, comme un enfant, mais non, évidemment pas. Mais voilà, il était beaucoup plus sur la retenue, beaucoup plus à l'écoute.
Et il tournait les prises sans problème, une prise, deux prises, trois prises.
Même sur un film, je me rappelle, je citerai pas, mais il y avait eu une multitude de prises. Le comédien qui était avec lui, par contre, il est monté dans les tours, il a tout envoyé bouler. Lui, il a accepté, il a baissé la tête et il a continué à faire ça. Oui. Voilà, donc il était prêt à faire des choses que d'autres ne faisaient pas. Son partenaire de jeu, lui, il a fait comprendre qu'il en avait assez.
Alors, il y avait la télévision, il y avait le cinéma, et il y a ce film aussi, dont voici la bande originale. L'homme du train. Et L'homme du train de Patrice Lecomte, c'est un film qui a aussi beaucoup compté dans la carrière de Johnny comédien.
Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui étaient réunies, c'est-à-dire que Patrice Lecomte, qui est un super réalisateur, Jean Rochefort, merveilleux comédien, il y avait une bonne ambiance, il y avait un bon climat sur le tournage, et dans l'Ardèche, en plus on était un peu loin de tout, on était tranquille et ça s'est vraiment super super bien passé. Ouais.
Oui, parce que dans ces cas-là, Johnny ne faisait pas la fête, il travaillait, tôt le matin.
Oui, parce que les tournages, il y a même des fois c'est le soir tard, la nuit, enfin donc là il faut avoir quand même être assez rigoureux sur l'hygiène de vie pendant le tournage.
Oui, et il écoutait Patrice Lecomte, le réalisateur.
Beaucoup, beaucoup, et même Jean Rochefort aussi. Voilà.
Oui, en fait, il se trouve que Patrice Lecomte avait rencontré Johnny au moment des Césars 98, quand il y avait eu La fille sur le pont, et il avait dit à Patrice Lecomte, j'aimerais un jour tourner avec toi, car j'ai adoré Les Bronzés. Et c'est pour ça que ce film s'est fait, et que Patrice Lecomte a tourné avec Johnny.
Ok.
Alors, il y a aussi Godard, car Godard, je ne sais pas si vous en avez parlé, il a tourné avec Godard, c'était le rêve de sa vie.
Il m'en a parlé, effectivement. Bon, après, moi, je n'ai pas connu, je n'ai pas côtoyé, mais tout ça. Mais c'est vrai que c'est revenu souvent dans les conversations, ça. Ouais.
Qu'est-ce qu'il disait?
Je ne me rappelle pas exactement, mais ça voilà, il le respectait énormément.
Oui, en fait, il a tourné Détective avec Nathalie Baye, donc c'est pour ça que ça s'est fait. Et d'ailleurs, il m'a un jour avoué, j'ai tourné dans Détective, j'ai pas du tout compris le rôle que j'avais, ni le sujet, mais ça s'est très bien passé.
Oui, c'était là, il était avec Nathalie Baye quand même, donc...
Exactement.
C'était le couple.
Voilà. Et puis il avait le scénario le matin, il tournait sans protester. Alors il avait un point avec Godard. Je sais pas si vous le savez, Patrick Roussel. Godard était kleptomane. Il volait sans arrêt des choses. Et vous avez vu Johnny kleptomane.
Alors oui, sauf que souvent il me demandait de le faire en fait pour lui. Voilà.
C'est-à-dire?
Il y a eu plusieurs reprises, il m'a demandé de voler des objets plus ou moins importants. Voilà, un livre, des affiches cinéma.
Un distributeur de bonbons en plastique.
Voilà, d'une marque célèbre.
Oui, Haribo,
voilà, pour ne pas les citer. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire ça pour ses filles, oui. À la maison.
Donc il a vu ça dans une loge ou quelque part?
C'est ça, oui, c'était dans les couloirs des loges dans un zénith.
Oui.
Et on est parti avec. Pas moi, parce que j'avais pas la place dans ma voiture, mais mon collègue qui avait la chance d'avoir une voiture un peu plus grande, il est parti avec.
C'était important, ça faisait au moins 1 mètre de haut.
Un gros mètre, oui.
Et personne vous a rien dit?
Non. Alors, personne, je sais, non, on n'a pas entendu parler. Alors que, très honnêtement, il nous disait, ça me plaît, je voudrais ça à la maison pour les petites. Le lendemain, on appelait Haribo et ils nous le livraient avec 10 ans de stock.
Oui.
Mais non, c'était, c'est pas pareil. Le prendre, le mettre dans la voiture et partir, c'était plus simple. Ouais. Et c'était plus excitant.
En fait, Haribo, on connaît les bonbons en réglisse, ouais. C'est né en 1920 et le capital de départ, c'était un sac de sucre. Et l'atelier de fabrication, c'était dans une maison avec un chaudron de cuivre, une plaque de marbre, un tabouret, un four à briques et un rouleau. Et ça a démarré comme ça.
Et ça a bien évolué.
Alors je crois aussi qu'il y a des affiches qu'il a volées et que vous avez dû rendre.
Oui, là par contre, la production Camus à l'époque donc a dû les renvoyer au Stade Gerland à Lyon.
Pourquoi il avait
parce que elle devait avoir une certaine valeur probablement et que le propriétaire des affiches je sais pas si c'était le stade ou je ne sais qui et il a souhaité les récupérer et bon ben là il a fallu que s'exécuter.
Ouais, mais en même temps, tout le monde avait compris que c'est Johnny qui les avait embarqués.
Comment ils ont su? Dans le couloir des loges, je me rappelle très bien, c'était dans le couloir des loges, il y avait, 7 ou 8 affiches de cinéma. Et, il n'y avait pas grand monde qui pouvait partir avec. Forcément.
Mais il n'était pas content de les rendre?
Non, je pense que, non, ça c'était pas un vrai souci. Ça l'avait beaucoup amusé, qu'on le fasse pour lui, et il fallait le rendre, il l'a rendu, puis voilà.
Il y a eu aussi un autre film, je crois, c'était Kidnapping, Quartier VIP, où il jouait le rôle d'un kidnappeur.
Oui. Mais moi j'ai joué là, par contre. Moi j'ai kidnappé là. Aussi.
C'est-à-dire?
Mais j'ai eu un petit rôle dedans, où je kidnappe Valeria Brunitelski.
Oui.
Et voilà, je suis son acolyte, et à la fin, de toute manière, je l'abandonne lâchement d'ailleurs.
Alors, il se trouve que Johnny était très dur dans les chansons avec ses équipes, mais le cinéma, il était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus. Il laissait faire les choses, il écoutait beaucoup plus.
Alors, dur avec ses équipes dans la chanson, je ne dirais pas ça. Il était exigeant, comme il l'était avec lui-même. Donc, à partir du moment où il était avec lui-même, il exigeait la même rigueur avec les gens qui travaillaient pour lui. Effectivement, pour le cinéma, il était prêt à accepter un peu plus de choses. Voilà, comme refaire 20 fois une prise. Parce que le metteur en scène ne sait pas trop où est-ce qu'il va et où est-ce qu'il veut arriver, il accepte.
Il aurait pu être un grand comédien.
Je sais pas.
Ah, il avait envie de ça de toute façon.
Oui, pas qu'il en ait eu envie, oui, ça c'est sûr.
Et puis il y a eu un clip aussi auquel vous avez participé pour le tournage de cette chanson.
Comme une partie de cartes.
Alors là, c'est pas la partie de carte de Pagnol, c'est celle de David dans l'album 100%. Il joue le rôle d'un voyou et Jean Reno, celui d'un policier.
Tout à fait.
Là aussi, c'est un tournage qui a marqué Johnny, auquel vous avez assisté.
Alors moi, oui, il a marqué lui parce qu'il jouait avec Jean Reno, qui était un grand ami et formidable comédien. Et moi, il m'a marqué pour deux raisons, c'est que ça a été la première fois où il m'a demandé de voler quelque chose. C'était livre dans une bibliothèque dans la maison dans laquelle se passait l'action.
C'est une maison louée dans les Yvelines, je crois.
Oui, c'est ça, voilà, oui, tout à fait. Et ma première rencontre avec Jean Reno. Donc, c'est un personnage aussi.
Et quel livre avez-vous volé?
Ça, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il était gros parce qu'il avait du mal à rentrer sous ma doudoune.
Et pourquoi il avait envie de ce livre? Il est quand même chez des gens qui louent la maison et ils volent un livre.
Oui, un livre qu'on aurait très bien pu commander aussi.
Oui, hein. Voilà, ce n'est pas un problème.
Non, mais voilà. C'était plus drôle, c'était plus excitant, encore une fois. Je pense que c'était juste ça, en fait.
Juste ça. Alors, d'autres souvenirs sur Johnny, notamment à Los Angeles. On va les évoquer à travers la date du 24 avril 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Roussel.
Sud Radio Béziers.
104.7.
Sud Radio.
Non, si demain tu m'écouteras encore. Je redeviendrai une inconnue. Si je partirai comme je suis venue, si fort, si vite, je cogite. Je pose des questions à des questions. Je me demande si on m'aime pour les bonnes raisons. Je dérive. On me propose de chanter cette chanson. Je sais pas, j'hésite. Je pense à tout. Tous ceux qui m'aiment pour deux, qui me font des cœurs.
dors plus la nuit. Ça me fait tourner la tête. Mélatonine, mon ami. Et y'a maman qui s'inquiète. J'ai pas bu une goutte, je me sens ivre. Mais l'instant d'après, je me sens vivre. Vivre, c'est trop là. Les amis, l'amour, les concerts et la famille, le regard des gens, les yeux qui brillent. Je me sens vide. Je ne sais pas quoi faire de ces bras. Je pense à tout ça, je me dis oh là, où ça ira. Je pense à tout ça, qui m'aime pour deux, qui se tatoue nouveau cœur sur le bras. Je dors plus la nuit, ça me fait tourner.
Radio Les Clés d'une Vie, Jacques Pessis.
Sud Radio Les Clés d'une Vie, mon invité Patrick Roussel, bodyguard ou garde du corps en français de Johnny pendant des années. Vous publiez pour ceux qui l'appelaient Johnny, chez Mareuil Éditions, un livre de photos qu'on évoque au long de l'émission et qu'on va évoquer un peu plus longuement tout à l'heure. Et on est à quelques jours des 82 ans de Johnny et on évoque ce parcours qui a commencé en France. Et puis le 24 avril 2012, c'est son premier concert à Los Angeles, à l'Orpheum Theater. Et ça, c'était, je crois, un rêve de toujours.
Oui, il a toujours rêvé de chanter aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Il a également fait New York.
Oui.
Voilà. C'est pour lui chanter aux États-Unis. Il l'avait eu fait par le passé. Il savait pas été une formidable réussite, donc avec des concerts à Las Vegas.
Bah, ça n'a pas été une réussite parce que d'abord, il y avait un avion qui avait été loué avec des fans de France venus et surtout, il était malade.
Voilà. Et puis, bon, voilà, il n'y avait pas eu le succès attendu. Là, c'était dans des salles plus petites et là, franchement, ça l'a bien fait. Voilà.
Et c'est vrai qu'il en parlait. C'était vraiment un rêve. Même s'il n'y avait pas le public français, c'était la consécration.
Il y avait du public français local, parce qu'il y a quand même pas mal de Français là-bas, mais aussi, voilà, ça permettait, comme de parler les photographes, les magazines, ils l'appelaient le French Elvis là-bas, donc ça parlait aussi un peu, et donc du bouche à oreille, il y avait aussi des Américains, et donc, c'était bien comme concert.
Le French Elvis, ça devait lui faire plaisir.
Oui, je pense, oui. Oui, bah, tous les paparazzis là-bas, à Los Angeles, ça l'appelait comme ça. Fait les Américains ou les Latinos, en fait.
Alors, dans ce concert à Los Angeles, il y a notamment cette chanson.
Pourquoi ne reviendrais-tu pas, puisque je t'attends? Pourquoi ne reviendrais-tu pas?
L'attente, avec cette voix instinctive en permanence, une chanson de Christophe Miossec, parce qu'il avait toujours choisi ses auteurs en fonction de l'air du temps.
Miossec, oui, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, justement, avec... qui était... très touchant en fait, très 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 humble, très gentil, limite timide, mais on sentait que qu'il y avait eu un truc avec l'artiste qui était passé, quoi. C'est pour ça que ça avait fait une chanson vraiment bien.
Car Johnny avait l'instinct de la chanson, l'instinct de la chanson qu'il fallait choisir.
Je pense, oui, c'est pas, on fait pas la carrière qu'il a faite aussi longue si on n'a pas le bon choix de chansons. Hein. Voilà, c'est pas toujours lui qui a insisté pour faire telle ou telle chanson. Des fois, il y a une maison de disques aussi qui pousse derrière. Hein. Mais oui, lui, effectivement, il savait faire, il sentait les choses.
Puis il était très très dur, il se faisait pas avoir. Un jour, je ne dirais pas qui, un de ses auteurs n'a pas voulu lui donner les droits d'édition. D'autres chansons sont arrivées, elles ont fini directement à la poubelle. Il n'a même plus voulu entendre parler, car il n'aimait pas se faire avoir, il était très honnête.
Oui, c'est un peu normal. Je sais que oui, il y avait eu des soucis avec un auteur ou avec le frère d'un auteur même, c'était donc je sais que ça avait été un peu compliqué. Oui, j'avais entendu parler de ça effectivement, mais c'est pas mon époque, mais j'en avais entendu parler. Oui.
Alors Johnny à Los Angeles, c'est une partie de votre livre car vous avez suivi Johnny à Los Angeles, Patrick Roussel, pendant des années.
Oui. Oui. Alors à l'époque, je vivais pas à 100% parce que même lui ne vivait pas à 100%, il avait pas encore les papiers définitifs. Donc on faisait des longues saisons, des longues périodes et c'était différent, c'était une autre vie. Lui était beaucoup plus calme, relâché, parce qu'en fait, il pouvait très bien aller dans un restaurant, dans un supermarché, faire ses courses, il n'y avait pas de problème. On était beaucoup suivis par les paparazzi, beaucoup. Et là, la gestion est un peu plus compliquée, parce qu'en France, les règles sont différentes là-bas aux États-Unis. Ils peuvent venir vraiment au contact aux États-Unis, on ne peut pas faire grand-chose.
Oui.
Voilà, et en France, on pouvait les mettre un peu plus à distance. Enfin, donc il a fallu gérer ça un peu pour faire. C'était mon boulot, hein, donc il a fallu établir certaines règles. Ça n'a pas été toujours facile, mais ça s'est rentré après. Et par contre, après, il y avait des super bons moments, les balades en moto dans les canyons à Malibu. Voilà, ça c'était génial. Comme on le voit en couverture du vélo sur la plage à Venice Beach, Ce sont des moments que peu de personnes ont pu faire, alors, partager avec lui.
Le vélo, justement, alors que on n'imagine pas Johnny faire du vélo, il en faisait et il avait même une remorque.
Ah, ça, c'était Laetitia qui avait la petite remorque avec pour porter les enfants derrière, c'est pour Jared Joy. Et elle transportait les petites derrière et c'était. Ah bon, c'était la petite balade du dimanche matin, ça, c'était cool.
En même temps, un jour, je crois que vous avez la clé de la remorque a disparu.
Oui, vous avez bien lu. Oui, effectivement. Mais quand on a rangé les vélos, raccroché les vélos derrière la voiture, j'ai dû laisser la clé sur le porte-vélo qui s'est verrouillé et j'ai déchargé les vélos. Et quand j'ai voulu retirer le porte-vélo de la voiture, eh bien, j'avais plus la clé, je pouvais plus le faire. Et donc, je suis allé chez un monsieur serrurier qui m'a fait ça en 10 secondes. Il a crocheté la serrure et j'ai dit « Ah ouais, lui, il est bon, lui. » Voilà, en 10 secondes, il avait crocheté la serrure, il m'a démonté le porte-vélo et il m'a même fait des doubles. J'ai dit « Ok, donc ça sert à rien de fermer la porte à la maison. Hein. »
Et Johnny n'en a rien su.
Non. S'il n'y avait pas besoin de savoir, voilà. J'ai toujours tout fait pour préserver... sa sécurité, certes, parce que c'était ma fonction première, de le conduire dans les meilleures conditions, c'était aussi ma fonction, et après de préserver sa tranquillité, tous les soucis, s'il n'avait pas besoin de savoir, voilà.
Alors, on connaît les road trips de Johnny sur la route 66, mais ce qu'on ne sait pas, et je l'ai appris dans votre livre, Patrick Roussel, c'est que vous étiez derrière avec une voiture.
Oui, tout à fait. Voilà, moi je conduisais le pick-up qui transportait tous les bagages. Donc j'ai fait aussi ce road trip, donc c'était super, c'était un rêve, quoi, et qui m'a fait vivre. D'ailleurs, dans le livre, il y a des photos perso que c'est moi qui ai faites. Jamais j'aurais imaginé un jour que je ferais un livre photo de mon parcours, sinon j'en aurais fait davantage de photos. Mais je suis très fier aujourd'hui de l'avoir fait et que mes photos sont dans le livre.
Oui, en plus, il posait sans problème pour les photos et il y avait un côté star, quand même pour une photo amicale.
Ah ben oui, c'est même lui, il y a des photos, c'est lui qui m'a demandé que je le prenne en photo parce que moi, je n'osais pas, c'est pas mon boulot. Et je n'osais pas, en fait. Et puis, je me disais, si je fais une photo qui est pas belle ou quoi que ce soit, il va me tomber dessus derrière. Et puis non, en fait, il s'est prêté au jeu, jusqu'à ce qu'après arrive un photographe professionnel sur la route, et voilà, mais il est arrivé à moitié chemin, donc moi j'avais fait mes photos avant.
Exactement. Alors il se trouve aussi que les déjeuners étaient tranquilles dans les restaurants de bikers.
Oui, ah oui, oui. Alors, il était tranquille, sauf s'il décidait de fumer.
Ah.
Voilà, parce que là, effectivement, en France, il avait quelques passes au droit dans certains restaurants. Aux États-Unis, personne ne le connaît, et surtout pas à Santa Fe. Et quand il allume une cigarette, on lui fait la remarque. Deuxième, le serveur lui fait la remarque à nouveau. À la troisième, je vois que c'est le manager qui va prendre son téléphone. Et là, je dis, faut que j'arrête. Oui. Voilà, donc je me lève et je lui dis, patron, il faut arrêter. Et sauf que quand je le fais, je sais pas quelle va être sa réaction. Hein, mais il faut y aller, il faut le faire, parce qu'on a pas, j'ai pas envie d'aller en prison, voilà, pour sa cigarette. Et donc j'y vais, et puis il me dit, ben bon, je dirais pas ce qu'il m'a répondu exactement, mais on s'en va.
Ouais, exactement.
Voilà. Et ben j'ai dit, ouais, super, on s'en va.
Il roulait aussi très vite.
Oui, en voiture essentiellement. Oui. En moto, non, en voiture, oui, ça y arrivait, ah oui, de rouler très vite. Oui.
Mais en moto, ouais. ça allait.
Non, en moto, ça allait. Voilà, on était plus sur de la balade en moto. Ouais,
exactement. Mais il y avait aussi celui que vous appelez Gaston Lagaffe, qui était ivrogné. Car il avait quelques soucis avec ses clés de moto.
Oui, oui, je sais pas pourquoi il les a pas accrochés à la ceinture de son jean, voilà, parce qu'effectivement, oui, deux fois, on est parti, il avait perdu la clé. Voilà. Parce qu'à savoir que donc, on peut démarrer la moto, sans clé, parce qu'à partir du moment où on a le transpondeur sur soi, sauf que, enfin, vous, s'il est à proximité, mais si on démarre, et si le truc, il reste par terre, mais quand on va s'arrêter au prochain arrêt, la moto ne redémarrera plus. Et deux fois, c'est arrivé.
Et puis, vous avez fait de la moto avec lui aussi?
Oui, oui. J'en ai fait à Los Angeles, essentiellement, ouais.
Et là, il fallait suivre.
Oui, ça allait encore. Mais surtout, non, j'en ai fait à Paris aussi. Là, par contre, oui, c'était un peu plus compliqué, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas encore mon permis moto, donc j'avais juste une 125 que je pouvais conduire avec le permis voiture. Et lui, par contre, il avait une grosse cylindrée. Et donc c'était là, effectivement, c'est plus sportif. Non seulement c'est dans Paris, c'est plus compliqué. Et en plus, j'étais pas équipé pour. Donc là, c'était un peu plus sportif, oui.
Vous évoquez aussi dans ce livre, Patrick Roussel, un séjour dans une réserve indienne où il y avait des bières qui étaient dissimulées.
Oui, oui, parce que dans les réserves indiennes, la loi fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de l'alcool. Et donc, on n'a pas, nous, le droit de traverser la réserve indienne avec de l'alcool. Bon, on était juste sur de la bière, effectivement, c'est, on l'est pas. Mais donc, du coup, c'était caché au fond de la glacière. Et par-dessus, je mettais des canettes de Caneo, qui était le sponsor du voyage.
Oui.
C'était des boissons énergisantes. Donc, je mettais ça par-dessus. Si toutefois, on a vu un contrôle, ce qui n'est pas arrivé. Donc, voilà, il fallait faire quand même attention. C'était le guide, d'ailleurs, qui aujourd'hui tourne encore là-bas, qui nous avait dit, attention, pas d'alcool, il faut pas montrer d'alcool ici, parce que sinon on va avoir des soucis.
Avec les Indiens, en plus.
On peut pas fumer dans les restaurants, on peut pas boire de bière n'importe où. C'est compliqué, quoi.
En revanche, il y avait une chose qui l'a marqué et qui vous a marqué, c'est sa Cadillac bleue, qui était vraiment une voiture exceptionnelle.
C'est une de mes préférées que j'ai conduite.
Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il avait acheté cette voiture à Los Angeles et on le remarquait avec cette voiture.
Il l'a fait entièrement refaire. Il l'a fait faire exactement comme il la voulait. Et c'est, je pense, oui, une des voitures les plus photographiées que j'ai eues. Voilà, fait que j'ai eu l'occasion de conduire, et même à Los Angeles, les gens photographiaient la voiture. Ils savaient même pas qu'est-ce qui était dedans, en fait. Ils photographiaient la voiture.
Et pourquoi?
Et parce qu'elle était magnifique. Elle est toujours magnifique puisque. Le 14 juin, je vais faire une séance de dédicace à côté de cette voiture-là.
Oui, parce qu'elle a été reprise, elle a été rachetée showroom.
Elle se trouve à Annecy, maintenant.
Et comme ça, dans une voiture de collection.
Voilà, c'est un monsieur qui était fan de l'artiste et qui a les moyens d'acheter des véhicules un peu d'exception.
Voilà. Et il se trouve aussi que Johnny avait beaucoup de voitures et vers la fin de sa vie, sachant que c'était presque la fin, il a acheté plein de voitures.
Alors, il semblerait, oui, qu'il se soit fait plaisir, il a eu bien raison. Voilà, donc on est vraiment avec une Lamborghini, avec le 4x4 Bentley, enfin voilà, il s'est fait un peu plaisir à la fin.
Oui, c'était à Marne-la-Coquette, avec des invités que vous alliez chercher à Paris, parce que pour lui, Marne-la-Coquette, c'était loin de Paris.
Oui, au début, oui, il pensait que Marne-la-Coquette était sûrement, je sais pas où, à côté d'Orléans, j'en sais rien.
Oui.
Mais voilà, donc il y avait des invités, je devais aller les chercher, comme évidemment ils recevaient beaucoup, parce que c'était leur nouvelle maison, ils voulaient la montrer, c'était tout à fait normal. Sauf que les invités, soi-disant, il n'y a pas de taxi qui pouvait monter là-haut. Donc moi, j'allais les chercher à Paris. Et je venais les récupérer après le repas pour les ramener chez eux, pour après revenir à Marne-la-Coquette, déposer la voiture, pour récupérer la mienne et rentrer chez moi.
Ouais.
Et encore une fois, il a été super gentil parce que il a bien vu que c'était pas normal que je fasse ça. Et au bout de quelques temps, il avait dit à son épouse, stop, il y a des taxis qui viennent ici. Et voilà, donc Patrick, c'est pas le chauffeur de mes invités. Mais il y en a un particulièrement, lui j'ai pris plaisir à le ramener, parce que Laurent Gérard, j'ai bien compris là où vous vouliez en venir, c'est que Laurent Gérard, j'ai passé un moment, alors là j'aurais pu l'amener à Orléans lui par contre, parce que et c'était un sketch permanent dans la voiture.
Complètement.
C'était, il n'arrête pas, il n'arrêtait jamais.
Il adore Johnny, et Johnny, la première fois que Laurent l'a imité, il est arrivé vers lui à l'Olympia, mais avec un regard noir. Laurent a eu très peur. En fait, c'était une blague. Il s'aimait beaucoup.
Ah oui, ah oui, oui. Ils s'appréciaient beaucoup, ils se sont croisés beaucoup. Ils ont même fait des duos.
Oui.
Ensemble. Il a même fait chanter Laurent au Stade Gerland à Lyon.
Oui.
Donc, non, ils s'appréciaient beaucoup. Oui.
Alors, il y a encore d'autres souvenirs dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 28 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Roussel.
Sud Radio Libourne. 106. Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Patrick Roussel. Donc, vous avez sorti le 28 mai 2025, quelques jours donc avant le 82e anniversaire de Johnny, un livre pour ceux qui l'appelaient Johnny chez Marie Édition. C'est-à-dire, pas la suite, mais un complément au livre que vous avez fait il y a 2 ans. D'abord, ce livre, il y a 2 ans, ça a été un immense succès. C'était, tout le monde l'appelait Johnny.
Oui, tout à fait. Et vous avez bien utilisé le mot complément, c'est effectivement ça en fait.
Alors, comment d'abord êtes-vous rentré au service de Johnny?
Alors, le hasard le plus complet, ça a commencé l'histoire en Guadeloupe, parce que je vivais là-bas, je travaillais dans la sécurité là-bas, et la personne pour qui je travaillais m'avait désigné chauffeur lors d'un concert là-bas. Et l'histoire, après, je suis rentré en région parisienne, et j'ai été contacté pour aller me présenter. Ils m'ont reconnu, parce que c'était 2 mois après, donc ça, ils m'ont reconnu des Antilles. Et j'ai commencé là. Et puis, l'histoire était partie.
Et vous avez découvert un autre Johnny que le public ne connaît pas forcément.
Oui, mais j'ai connu l'artiste dans sa vie privée, dans son intimité, avec les bons, les mauvais côtés. Mais voilà, j'ai vécu, j'ai tout partagé avec. Voilà, oui, tout à fait.
Et ce livre, c'est un complément, et surtout vous le racontez avec affection, parce qu'il y a tellement de buzz. J'ai compté, il y a 95 livres sur Johnny.
Ouais. Non. Je le fais alors avec le plus grand respect que j'avais pour lui et que j'ai toujours pour lui, voilà, et que je garderai parce que je trouve que c'est quelqu'un de respectable et qui a été vraiment. Vraiment très agréable avec moi, il a toujours été gentil avec moi, il a fait plein de choses pour moi, et donc je vois pas aujourd'hui, même si je raconte des choses qui pourraient, qui rentrent un peu dans l'intimité, certes, et pas toujours super positives, mais ça fait rien, j'essaye de le faire avec le plus grand respect, oui, effectivement.
Alors, il y a une chose qu'on apprend finalement, c'est que Johnny, qui était un solitaire, en voiture, il parlait tout seul.
Et quand il partait dans ses pensées, lesquelles, ça par contre, il y a que lui qui le sait, effectivement, il partait et il arrivait même à parler tout seul. Voilà, donc là, je savais que c'était pas la peine que moi je parle, hein, parce que tout le monde, dans tous les cas, il allait pas me calculer. Et oui, c'était en fait, il marmonnait. Voilà, il faisait son histoire dans sa tête et il marmonnait. Voilà, il partait loin. Il était loin.
et il n'en parlait plus jamais. On ne savait pas ce que ça devenait, ce qui était dans
sa tête. Ah, je sais pas. Là, je peux pas dire. Voilà, c'était peut-être lui, ses idées de projets, de nouveaux concerts, de nouveaux films, ou je ne sais quoi, ou de nouvelles maisons.
Mais il était bavard quand il voulait. Moi, je me souviens, un jour, je suis chez lui, Villa Molitor, pour une émission de radio. Bon, il parle normalement. Et après l'émission, il a commencé à me raconter des histoires de ses rêves de bateau. Ça a duré 1 heure et demie. Il n'arrêtait pas quand il a commencé à parler.
Mais ça m'étonne pas, parce que, en fait, il parlait pas beaucoup, il était assez impressionné avec les micros, les interviews, tout ça. Ça, on l'a bien vu que c'était pas sa spécialité. En revanche, après, une fois que tout est éteint, il n'y a plus de micro, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. Là, après, c'est monsieur tout le monde, quasiment, et là, il pouvait parler normalement.
Alors, il y avait aussi ses concerts, et il y avait une tradition, c'est-à-dire qu'il ne laissait jamais ses objets de valeur dans sa loge, il voulait confier.
Peu, oui, très peu. Effectivement, souvent, il me les confiait. Voilà, parce qu'il savait que dans tous les cas, je serais là à la sortie, et que à la sortie, qu'est-ce que je ferais? Je lui remettrais tout de suite la main propre. Effectivement, il y avait des endroits où les loges n'étaient pas forcément sécurisées. Et donc, il préférait que ce soit moi qui les garde, oui.
Voilà.
Essentiellement, montre, papier, téléphone. Téléphone.
Il y a eu, je crois, une histoire un jour lorsqu'il a donné un concert pour la maison Cartier.
Oui, alors, non, c'est pas tout à fait ça l'histoire. Je suis désolé de vous reprendre. C'est le premier concert qu'il a fait, donc, après ses soucis de santé à Los Angeles.
Oui.
Ça s'est fait sur une péniche. Et il y a beaucoup de gens qui lui avaient offert des cadeaux. Parce que je crois que c'était même l'occasion de son anniversaire, me semble-t-il. Et notamment, il a reçu une montre Cartier de la maison de Cartier. Sauf que cette montre-là, je l'ai jamais vue. Tous les cadeaux qu'il avait reçus, je les avais récupérés, je les avais mis dans une pièce. Et quand le bateau s'est arrêté, la péniche, j'ai tout rechargé dans la voiture. Et puis voilà. Sauf que la montre, je l'ai jamais vue. Elle a disparu. Et donc, il m'a reproché d'avoir perdu sa montre. J'ai jamais vu la montre. Je pouvais pas la garder. Voilà. Pas grave, hein, ça a duré 2 jours le truc, et puis il a reçu une autre montre Cartier, et puis c'était terminé, qu'il n'a jamais porté en plus. Hein.
En plus, oui. Alors, il y avait aussi les coups qu'il fallait garder, c'est-à-dire qu'il y avait le secret professionnel, notamment un jour il s'est blessé avec un gros orteil, et il a fallu que vous gardiez le secret pour que Laetitia ne s'aperçoive de rien.
Oui, c'est ça, oui. Oui, il a mis un coup de pied dans le pied de son lit à Gstaad. Et il s'était bien ouvert, le pied. Donc, ça avait bien saigné. Il y avait du sang un peu partout sur la moquette. Donc, on a fait ce que nous avons pu avec la gouvernante là-bas. Et après, la gouvernante, effectivement, a fait intervenir une entreprise de nettoyage pour tout nettoyer, qu'il n'y ait pas de traces comme ça, Laetitia. Aujourd'hui, elle le sait. Elle le saura là, si elle lit le livre.
Oui.
Mais enfin, je lui fais confiance. Quelqu'un lui rapportera. Voilà, oui, effectivement, oui, il fallait garder sous silence certaines choses.
Oui, notamment quand il voyait Laura, là, c'était pas simple non plus.
Voilà, les débuts avaient été compliqués de quand j'ai commencé à travailler, ça avait été une partie de des situations un peu compliquées pour moi. Effectivement, je comprenais pas, et il fallait faire comme s'il la voyait pas, alors qu'il allait déjeuner avec, et je comprenais pas pourquoi. Jamais vraiment compris d'ailleurs, même encore aujourd'hui. Et ça me mettait en fait moi dans une situation un peu ambiguë, quoi. Parce que ça aurait été des années plus tard, ils se voyaient. Donc là, il n'y avait plus de soucis, il n'y avait plus de cachotterie. Mais à ce moment-là, si j'avais été pris en train de cacher ça, ça aurait pu se retourner contre moi.
Et vous expliquez dans ce livre, Patrick Roussel, combien Laetitia a changé au contact de Johnny, combien elle est devenue rock'n'roll.
Oui. Alors, elle est devenue rock'n'roll, oui, un peu pour tout. Bon, il y a eu une évolution vestimentaire, bon, mais ça, c'est un peu normal, parce que forcément, elle a rencontré plein de gens, elle est allée dans d'autres boutiques, donc elle a eu les moyens de suivre une mode, donc elle a fait ça. Oui, il y a eu les tatouages aussi, voilà, il y a eu les tatouages. Donc, effectivement, elle est devenue rock chic, voilà, avec le temps.
Les tatouages, Johnny adorait ça,
oui.
Et c'était presque une obligation pour son entourage.
Il a incité à le faire, oui, effectivement. Il a incité, notamment, je sais que c'est Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia, en avait eu un petit. Mathieu Chédid y était passé à Los Angeles, et voilà. Même s'il était assez réfractaire au début, mais oui. Vu l'insistance, après 3 semaines d'enregistrement d'un album à Los Angeles, il a craqué, il l'a fait.
Voilà. En même temps, Johnny faisait très attention à ses tatouages. Il réfléchissait avant de faire un tatouage, vous le racontez.
Ah oui, mais oui. Et on allait là-bas, on allait à Los Angeles, il allait seul dans le salon de tatouage. Il avait une idée, il regardait des modèles, après il discutait avec le tatoueur refaisait tout ça. Ça se faisait rarement le jour même. Après, donc, il revenait, il re-regardait. Et puis après, il faisait faire effectivement des tatouages. Il en avait quelques-uns sur le corps, oui.
Et il y avait un loup aussi.
Oui, ça, le loup, il l'avait fait bien avant. Oui, c'est un loup. Le loup, il a été tellement repris. Il y a tellement de fans qui ont voulu refaire le même loup. C'était peut-être un de ses premiers qu'il avait fait, je ne sais pas. Je sais pas, mais celui-là, moi, je l'ai toujours vu avec.
Il vous a jamais obligé à faire des tatouages?
Non, je l'avais déjà, moi. Voilà, donc j'avais déjà, je les ai fait tout seul après.
Ouais, donc,
voilà. Il n'avait pas besoin de me forcer pour ça.
Alors, il y a quelqu'un qui l'a forcé, Amanda Sterz, qui a fait un livre avec lui, cette jeune femme qui écrit très bien. Il lui avait dit, si on vend 500 000 exemplaires de ce livre, tu feras un tatouage. Et elle s'est fait faire un tatouage derrière le cou parce que le livre a été un gros succès.
Mais ça m'étonne pas.
Il y avait aussi, vous le racontez, les séances de shopping à Los Angeles où c'était tranquille, Patrick Roussel.
Oui. Ah ouais, ça, le shopping à Los Angeles, c'était bien parce que c'était tranquille. Des fois, un peu long, parce que justement, comme il n'était pas pressé, il n'était pas stressé, donc du coup, c'était un peu long. Mais oui, c'était un gros acheteur quand même.
Il avait la fièvre acheteuse.
Oui, et puis il aimait bien ça, il aimait bien s'acheter des... Alors, il aimait bien chiner, c'était... Alors, beaucoup de bracelets, de bagues... Des chapeaux, mais aussi beaucoup de vêtements. Il achetait quand même beaucoup de vêtements aussi. Il aimait bien être suivre la mode, avoir des nouvelles pièces, des produits un peu rares, des choses qu'il avait qu'on trouvait pas partout. C'était non, il aimait bien ça, ouais.
C'est un point commun qu'il avait avec Charles Aznavour. D'ailleurs, Aznavour l'avait hébergé pendant 2 ans à ses débuts à Montfort-l'Amaury, quand il n'avait pas de logement. Et c'est vrai que Aznavour, dès qu'il passait devant une boutique, il achetait quelque chose. Donc Johnny tenait peut-être ça d'Aznavour.
Ah, peut-être bien, oui. Parce que même quand on a fait la route 66, il achetait des bracelets dans des trucs, des petits shops au bord de la route. Voilà. Et il fallait qu'il repasse avec un truc.
Et puis, vous évoquez, il y a des photos, ce fameux rallye, le Paris-Dakar, qu'il a fait. Et là aussi, ça a été quelque chose d'extraordinaire.
Oui, ça c'est parce que... à l'époque, le rallye Paris-Dakar n'était pas comme il est aujourd'hui, mais donc c'était plus familial, on va dire, même si c'était très dur. Pour moi, c'était un rêve d'enfant et je me suis retrouvé là. Et lui, il a roulé, mais franchement... Il a roulé super bien et surtout c'est qu'il a eu quand même la chance d'avoir un grand pilote qui était son copilote René Medge, qui était et les deux sont ils ont fait un super boulot, ils se sont super bien entendus et ils roulaient et ça s'était très bien passé, il a roulé bien. Ça a été long, ça a été dur pour même pour lui, mais il l'a fait et franchement bravo.
Et il y a eu aussi, on en a peu parlé, le rallye de Tunisie qui a été beaucoup plus compliqué, Patrick Roussel.
Oui, le rallye de Tunisie, ça a été, alors là par contre, oui, là, il s'était blessé sur le rallye de Tunisie, il s'était cassé la clavicule parce qu'il avait fait ils appellent ça une casquette en fait, donc en haut d'une dune, bam, sa voiture, elle a manqué de faire un tonneau, il s'est blessé à l'épaule, il a été opéré au retour du rallye, mais il a quand même terminé le rallye, hein. Encore une fois, c'était une preuve que il avait une santé, une consistance hors norme.
Se casser la clavicule et terminer le rallye, oui, c'est absolument, oui, incroyable.
Et il avait été opéré dans une clinique 16e, la porte de Saint-Cloud, me semble-t-il.
Ça faisait partie de son quotidien, presque, ce genre de choses.
C'est-à-dire que s'il commençait quelque chose, il fallait aller au bout. Voilà. Quand il s'est arrêté en tournée parce qu'il avait mal au dos, c'est qu'il pouvait vraiment plus. Voilà, il était arrivé au bout du bout. Voilà. Parce que sinon, il allait à fond.
Et il y avait aussi ces concerts improvisés que vous avez vécu quelquefois au Club de l'Étoile ou ailleurs, oui, pour des soirées. Racontez-moi, Patrick Roussel.
Ouais, alors très souvent c'est parce qu'en fait l'ambiance se prêtait à ça. Bon, alors peut-être un petit peu aussi un petit peu d'alcool qui fait que ça désinhibe aussi. Et voilà, il y a un piano, il y a quelqu'un qui joue, il y a quelqu'un qui chante ou il y a un truc. Bon, mais et un air qui lui plaît bien et puis hop, c'est parti. Il va se mettre à côté et puis il chante. Et bon, là, d'un seul coup, c'est plus la même ambiance. Hein. D'un seul coup, c'est quand même... tous les gens arrêtent leur conversation et regardent. Voilà, ils sont au spectacle. C'est juste, il y a eu l'étoile pour ça. Il y a eu une fois...
Le mariage des mariages.
Et les mariages, alors... Mariage de Mimi Marty.
Oui.
Voilà, pas mal, là. Joli petit showcase, là.
Oui.
Là, il y avait eu le mariage de Patrick Bruel... Là, on était encore monté en gamme, là, parce que là, il y avait un vrai concert, on était encore monté en gamme.
Mais improvisé, tout ça.
Alors là, semi-improvisé. Mariage Patrick Bruel, semi-improvisé, voilà. Parce qu'il y a l'orchestre, il y a des musiciens qui connaissent. À un moment donné, ils savent très bien qu'il va, craquer, il va monter.
Moi, je l'ai vécu à l'Élysée Matignon, une discothèque parisienne, où il fête les 31 ans de Sardou. Il est à table avec lui. Il est au sous-sol. Et puis, au premier, il y a un orchestre de tango. Donc, il monte avec ses musiciens vers 2h du matin. Les musiciens virent les musiciens de tango. Johnny et Sardou prennent un micro chacun. Et ça a été un concert de rock'n'roll de 3h.
Voilà. Mais ils avaient bien raison, parce que tango, bon.
Voilà. Mais c'est ça, c'était Johnny.
Ouais.
Et l'image de Johnny aujourd'hui, est-ce que les jeunes générations connaissent Johnny?
Je sais pas s'ils connaissent, mais j'ai l'impression quand même que ça se transmet beaucoup dans les familles, quand même. Parce que je vois encore que sur les réseaux sociaux, il y a encore quand même des jeunes qui sont toujours présents. Alors des jeunes, quand je dis jeunes, ils ont 25-30 ans, hein, mais Ils sont encore là quand même. Ils sont encore, ce sont quand même des jeunes pour être fans de monsieur qui aujourd'hui aurait 82 ans.
Voilà. Et que vous évoquez avec émotion dans ce livre, pour ceux qui l'appelaient Johnny, que je recommande à celles et ceux qui aiment Johnny et à celles et ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on le découvrira sous un angle différent du rocker.
Totalement.
Merci Patrick Roussel, c'est chez Bareuil Éditions. Merci, et puis continuez ainsi à évoquer Johnny. Vous serez toujours le bienvenu pour en parler dans Les Clés d'une Vie.
Merci beaucoup.
Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio H.
102.
Sud Radio.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. La main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. De jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur. De l'utopie, d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur. Restent les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face aux tremblements. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.